Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Formation phare de la scène groove, Arad Kilo a livré en mars dernier un cinquième album très attendu. Max de la radio RCV à Lille s'empare de la carte blanche pour célébrer ce disque nommé Danama. L'échappée belle d'Antoine Miersman, bassiste de Brains, se poursuit sous l'égide de Paradoxan avec un deuxième album sobrement intitulé 2. À découvrir aux côtés d'Aurélie de Fréquence Mutine, la radio Ferrarock brestoise. Et on démarre ce numéro Dig Dig Diggers avec Marie de Sol FM à Lyon, pour la découverte de Tout est flou, un album qui conjugue vitalité et mélancolie par grand gamin.
Cédric de la Chapelle met sa guitare et son talent au service de nombreux musiciens, et ce depuis presque deux décennies. On n'a pas oublié, bien sûr, Slow Joe and the Ginger Accident, dont il était la cheville ouvrière. Plus récemment, on a retrouvé Cédric aux côtés de We Are the New Generation, un collectif de jeunes artistes africains exilés précaires de l'agglomération lyonnaise. Aujourd'hui, Cédric de la Chapelle est grand gamin et déploie en solo sa créativité dans un univers sonore, mélancolique et joyeux, humaniste et coloré. Tout est flou, c'est le premier album de Grand Gamin. C'est le choix des radios Ferrarock cette semaine. Cédric, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu dans les studios de Sol FM pour nous présenter cet album Tout est flou. L'aventure de Grand Gamin, elle a commencé quand ?
Ouais, j'ai envie de dire, elle a commencé depuis le début. Quand j'ai commencé à faire de la musique, j'étais beaucoup seul au début. J'aimais bidouiller sur un multipiste dans ma chambre, créer tout seul. Après, je me suis mis à jouer en groupe, mais j'écrivais déjà. Et puis, c'est ces dernières années que j'ai eu besoin de m'y remettre, sans forcément le nommer, juste en passant du temps à finaliser des chansons. Et petit à petit, avoir ce nom qui me vient aussi, parce que pour incarner un projet comme ça, c'est débile, mais il faut arriver à le nommer. Donc quand ce nom m'est venu, ça m'a plu et ça m'a mis un coup de fouet et je me suis dit allez. Donc on va dire que ça fait 2-3 ans que c'est devenu vraiment très présent dans ma tête.
Alors Grand Gamin, c'est aussi le refus de l'âge adulte, c'est...
Ouais, après, oui, il y a un rapport à l'irrévérence complètement, oui. Ouais, mais en même temps je refuse pas du tout d'être un adulte et j'adore être un adulte, mais je veux pas être soumis quoi, genre il y a quelque chose comme ça, il y a une espièglerie, un rapport un peu coquin à la vie, à la fois rester émerveillé et à la fois ne pas être dupe sur ce qu'on nous fait avaler.
Alors, ma surprise en écoutant Grand Gamin, c'est le côté coloré, bigarré, métissé. Alors c'est drôle parce que tu as souvent travaillé en débordant les continents, mais je n'avais pas du tout cette image-là de toi en tant que guitariste.
Bah après ça c'est oui, mais comme tu le dis, je pense que c'est les expériences qui m'ont donné des codes et des couleurs que j'avais pas. Je pense qu'il y a deux décennies, comme tu disais, franchement je pense que ma musique était plus blanche et plus grise, et le fait d'avoir collaboré, je pense effectivement ça donne ça, où moi je pense que c'est la chose la plus importante dans le fait de collaborer, bien évidemment sur le moment, la cohabitation, le fait de se confronter à une altérité, mais il y a aussi le fait de nourrir son vocabulaire intérieur, et je pense que j'y réfléchis pas du tout, et effectivement il y a des choses qui sortent qui, je pense, viennent de des choses que j'ai pu pratiquer avec d'autres.
Alors ce qui est drôle aussi, c'est que j'avais plutôt l'image de toi comme d'une silhouette. Tu étais rarement en frontman, tu as souvent accompagné des projets, c'est encore le cas aujourd'hui avec le combo We Are the New Generation. Donc tu étais plutôt la cheville ouvrière, quoi. Le mec qui fait en sorte que ça marche,
ouais, bien sûr.
Qui fait la musique,
Mais qui reste en
retrait. En retrait.
Ben, à la fois, j'ai commencé la musique en frontman, parce que donc, quand j'ai commencé au lycée, je chantais dans mon groupe.
Alors, connu quand t'étais.
Non, voilà, c'est ça. Mais même S, tu vois, quand on s'est rencontrés à cette époque-là, j'étais chanteur, j'écrivais les. Mais oui, complètement. Je pense qu'à partir du moment où j'ai rencontré Slow Joe, c'est vrai que je me suis dit, tiens, tout ce que t'as appris, tu peux le mettre au service. Et je l'ai pas décidé, je l'ai pas mentalisé, mais je l'ai fait. Et en fait, c'est juste que là, moi, c'est vrai que ces dernières années, ne pas y retourner, je pense que ça aurait été dangereux pour ma santé mentale.
Oui.
C'est aussi bête que ça. Donc oui, mais je pense que j'aime vraiment profondément les deux. Mais là, je suis en train de résoudre un truc, en tout cas, qui me fait un bien fou. Et ça m'empêche pas du tout. Là, on a joué vendredi au Periscope avec We Are the New Generation. C'était blindé, ambiance de folie. La semaine prochaine, je vais jouer Grand Gamin à Aurillac pour un super festoche et puis plein de fois dans l'été. Et voilà. Et faire les deux, ça me convient, mais complètement, quoi. Je peux pas, je pense que j'ai plein de choses à raconter, mais je sais pas si ça pourrait me suffire de ne faire que raconter ça. Je pense que j'ai aussi besoin d'aider d'autres personnes qui ont énormément de choses à dire à s'exprimer. Quoi.
Grand Gamin, l'album, c'est donc Tout est flou, 10 morceaux.
10 morceaux, secs, taillés.
Que tu as mis combien de temps? C'est venu dans...
Oh, c'est dur à dire, parce qu'il y a des choses qui traînaient. Alors, comme sur la fin de Slow Joe, donc le Ginger Accident, le groupe avec lequel on l'a accompagné, il y a deux morceaux qu'on a... En fait, après sa mort, ça a été un peu difficile de quand même de quitter complètement le navire, de se dire, bien sûr. Bon, on s'arrête, le chanteur est mort.
Vous avez fait une tournée...
On a fait une tournée hommage, voilà, c'est ça, parce que le troisième album, il est décédé juste avant que l'album soit sorti, c'est-à-dire qu'il était terminé, mais on a... Donc on a fait une tournée hommage tous les quatre. Et dans la foulée, on s'est même mis à écrire des morceaux, dont Constantine et Palikari, qui sont les deux seuls morceaux sur lesquels on avait travaillé, parce qu'il y en avait une bonne dizaine, que je trouvais finalement, voilà, j'ai repris, que je trouvais assez personnel. Voilà, il y a des choses qui traînaient par-ci par-là. C'est plus le fait de les finaliser, de les rassembler, d'en enlever, parce qu'il y en avait plein d'autres que j'avais, puis que j'ai enlevé. C'est ce tri-là qui a été fait plus récemment. Après, il y a des choses au long cours, c'est sûr, quoi. Il y a des choses, quelquefois, on y revient, ou parfois au dernier moment, on rajoute un truc.
On va écouter Constantine. C'est un des titres que tu as présenté en premier.
Ouais, ça a été le premier titre.
C'est le premier titre.
Ouais.
C'est un des plus anciens, donc du coup aussi.
Ouais, d'une certaine manière. Et puis c'est un titre à la fois très personnel, qui parle des origines qu'on a tous et qui sont plus ou moins floues.
Hein. C'est ça. Oui.
Et voilà, et le trouble et en même temps l'imaginaire que ça que ça interroge.
C'est aussi le morceau qui t'a permis de faire la transition.
Ouais, voilà, tout à fait, tout à fait.
Entre ces deux univers.
Exactement.
On écoute Constantine, Grand Gamin.
Je n'ai jamais vraiment su comment te
C'était Constantine, signé Grand Gamin, extrait de Tout est flou, premier album de Grand Gamin. La surprise aussi, Cédric, c'est que tu as tout fait tout seul.
Ouais, quasiment. À part, par exemple, sur ce morceau, il y a quelques restes de re-ref à l'époque, mais oui, tout fait tout seul. Mais c'était vraiment le projet, il était là. Mmh. Et besoin aussi de ne pas parler quand on fait de la musique, besoin que le cerveau discute avec les enceintes. Et le fait de ne pas avoir à formuler quelque chose, en fait. Moi, c'est là
mais
où j'en étais.
Tu l'as fait chez toi?
Ouais, entre chez moi et mon local. Ouais, en fait, il y a aussi que en travaillant avec d'autres, je me suis aussi mis ces dernières années au grid sur un logiciel de montage. Ce que je faisais pas avant, en fait, quand j'enregistrais des groupes de rock avec Slow Joe ou autre, il y avait pas de clic, il y avait pas de grille, quoi. Il y a pas le temps mort, le truc qui passe et puis qui est indéfectible. Et donc, le fait de commencer à travailler avec des outils plus numériques, entre guillemets, avec des boucles, tout est beaucoup plus facilement interchangeable, tout va très vite. Et ça m'a beaucoup plu. Donc, effectivement, j'avais plus du tout envie de discuter avec un batteur pour lui dire de quoi j'ai envie, même si j'ai enregistré Rémi Capriélan sur trois titres. Voilà, il y a quelques fois.
T'as des potes quand même.
Ouais,
qui sont présents.
Un petit peu. Mais globalement, puis je l'aurais pas mis, ça aurait pas changé la face du disque. Hein. C'était pour une petite couleur. Non, mais c'est cool, je suis très content de ce que ça a rajouté. C'était pas l'objectif de base. L'objectif de base, c'était vraiment de résoudre, résoudre ces énigmes tout seul.
Donc tu as travaillé tout seul.
Ouais.
Enregistré tout seul.
Ouais.
Y compris ta voix.
Oui.
D'accord.
Oh, ça, c'est pas le plus compliqué. Après, j'ai travaillé avec quelqu'un pour le mixage, pour le mastering. Hein. Les mêmes personnes avec qui je travaille depuis des années.
C'est ça. Il y a une certaine fidélité.
Ah oui. Et puis fidélité. Là, j'ai mes limites techniques aussi en termes vraiment de mix.
Mais t'as aimé bidouiller tout ça? C'était quelque chose.
Ouais. Et puis je fais ça tout le temps. En fait, d'accord. Même quand je travaille avec d'autres, quelquefois, on me demande, je sais pas, de réaliser un morceau, un disque ou je sais pas quoi. Il y a quand même énormément de moments où je suis tout seul. Une fois qu'on a cohabité, qu'on a discuté, moi, derrière, j'ai une relecture, un travail à faire tout seul que j'adore faire tout seul.
Mais en fait, c'est pas la même chose hein, que de
non complètement
que de travailler pour quelqu'un et de travailler pour soi. Alors, ouais. Est-ce que tu as eu besoin à un certain moment de l'œil extérieur ou est-ce que tu t'en fichais complètement? Non.
Très peu. C'est plus pour si ça m'est arrivé. J'ai envie de dire la première oreille extérieure, c'est Lionel Dussochois avec qui on travaille sur les mix.
Oui.
Et lui, quelquefois, il m'a fait, tu sais, ce couplet là, je l'ai décalé, je l'ai mis là. J'écoute, je fais ouais, ça va, ça me plaît. Et d'accord. Puis quelquefois, il va virer une piste ou en rajouter une autre qu'il a doublée à l'octave, je sais pas quoi. Bon, moi, tant que. On a l'habitude de travailler ensemble, donc on se respecte et on sait avancer.
Et la scène tout seul?
Ah, c'est mortel. J'adore. J'ai trouvé ce micmac l'or. Alors c'est pas vraiment fidèle à mes principes de base, c'est-à-dire que globalement je veux dire que j'envoie les instrumentaux et je chante par-dessus, donc c'est pas ça, que c'est pas ma culture. Mais après j'ai trouvé plein d'endroits pour que ça reste vivant. J'ai notamment un vocal harmonizer qui me permet de faire tous des chœurs tout seul. Ça j'adore. Et après j'ai
ça
aussi
fait
des
de choses en même temps pour le public.
Et puis après j'ai des intros à la guitare, des intros au synthé et puis des fins. J'ai trouvé plein d'endroits où en fait rien n'est figé. Je peux durer si les gens y hurlent, ils me disent plus fort, je peux mettre plus fort et puis je peux j'ai des boucles un peu techno sur un fin de morceau et ça me plaît parce que ça peut durer. Donc je trouve un endroit où je sais que chaque soir n'est pas la même chose.
Ah, c'est entre la performance artistique et le one man show à tes côtés.
ouais, un peu. Après, il y a le fait d'incarner, le fait aussi là de ne jouer presque rien, le fait de pouvoir regarder les gens dans les yeux et d'affronter ça, j'adore quoi. Vraiment, pour l'instant, c'est. Et puis le fait de jouer seul aussi, ce qui est fou, c'est que en fait, être en tournée tout seul, on est vachement plus avec les gens.
Alors, du coup, t'as même pas peur, c'est-à-dire que t'es vraiment tout seul ou t'as.
Non, tout seul, ouais. D'accord. Quelquefois, je suis avec un. Si les gens ont le budget et qu'ils veulent les lumières, j'ai mis les lumières parce qu'en fait, le son, on a vraiment bossé le truc.
T'es autonome.
Je suis autonome, c'est-à-dire que le gars en face, il a 6 pistes. Non, il a pas le droit de gauche. Il y a quand même la voix, l'instru et la guitare séparés. Qu'il puisse toucher fréquentiellement, surtout sur la voix, parce que les instrus, je dis souvent, faut mieux pas toucher, c'est tout bien étalonné. Mais après, les lumières, c'est cool quand quelqu'un connaît le set. Mais sinon, la majorité, je les fais tout seul. Et en fait, quand t'arrives en train, qu'on vient te chercher, les gens sont super aux petits soins avec toi. Et toi, t'es obligé d'être avec eux.
C'est ça, tu peux pas.
Il y a plus cette bulle. Il y a plus cette bulle qu'on a quand on est
quand
en groupe, que j'adore, mais qui est en fait qui cloisonne en fait aussi.
Ça veut dire que tu fais tes tournées en train?
Exactement.
Important.
Ou en voiture, mais sinon en train.
D'accord. J'ai regardé parce que tu te balades pas mal. Hein, là, il y a beaucoup.
Ouais, ouais, il y a pas mal de dates.
Il y a pas mal de dates. Il y a des coins. Je savais même pas que ça existait avant que tu y ailles.
Donc... Bah dans la Loire, non. C'est les plans dans la Loire. J'ai plein de plans dans la Loire. Alors là, moi, j'y vais quand même en voiture. Mais là, Aurillac, je vais en train. Hein.
Ouais, d'accord. Tu mets 6 jours, mais tu vas.
Non, bah c'est, franchement, c'est un peu plus long qu'en voiture. Non, non, c'est plus cool.
C'est aussi parce que voilà, il y a. L'envie de raisonner, de se raisonner en termes de, d'environnement.
Ah bah ça c'est clair que ouais. Maintenant, là, au début, je pense qu'il y a des années, j'aurais cherché des dates de partout en France. Là maintenant, je cherche en Rhône-Alpes, hein, Auvergne. Hein, ça fait déjà... En fait, il y a tellement de lieux de partout. Bien évidemment qu'il faut commencer à penser comme ça. Hein. Et puis les cafés, les cafés associatifs qui se structurent, c'est super aussi. C'est-à-dire que tu peux, en une heure et demie, faire 3 concerts à une demi-heure d'intervalle. enfin, en 3 jours, enfin, on s'est compris, quoi. C'est... Moi, j'adore ça. Et puis, ça fait aussi que c'est pas le même public qu'en ville.
C'est drôle parce que t'as fait quand même aussi de très grosses scènes.
Ouais, ouais. Là, j'ai fait une première. Mais là, en novembre, j'ai fait une première partie d'MPL. Ouais, il y avait 500-600. Pour l'instant, c'est les plus gros que j'ai fait. Là, il va y avoir un gros festoche à Aurillac.
Mais tu joues avec la même envie, le même enthousiasme.
Ah, bah ouais, mais sinon, je ferais
autre. Sinon, j'irai. Et 200...
Ah, bah ouais, sinon, j'irai pousser des palettes à Rungis.
Alors, pour un Lyonnais, ça fait loin.
Non, je rigole, c'est une punchline de Kaza qui disait ouais, plutôt que de faire du rap de merde, je préfère pousser
mais
des.
Mais tu peux aller à Corban où ça marche.
Ouais, voilà, je pourrais aller voilà, au marché-gare. Non, mais moi, je pense que c'est un plaisir de bête et simple et viscéral.
Bon, ton set, il est calé, il est.
Ouais, ouais, il est bien calé.
D'accord.
Là, j'ai eu des petits changements en mois d'avril avant la sortie d'album. Et puis pour la sortie, c'était vraiment j'avais changé 2-3 trucs et j'ai vraiment fait une fin
qui monte.
Ouais, voilà. Alors qu'au début, c'était un peu des vagues et j'ai un super pote, Lionel Thomas, notre sondier avec Slow Joe, qui m'a vu à la tannerie. Il me dit c'est pas mal, mais là pourquoi tu descends là pourquoi? Et il m'a fait 4 remarques et j'ai tout suivi.
D'accord.
Et je pense qu'il avait vraiment raison de partout.
Donc du coup, la vie est belle.
Ouais, voilà. Ouais, voilà, c'est
Tu fais les 10 titres de l'album ?
Non, il y en a je fais pas, il y en a une que je fais pas parce que et puis il y a aussi des morceaux que j'avais fait autour du disque que j'ai pas mis parce que c'était vraiment down, très lent. Et alors autant on peut prendre du plaisir tout seul devant un ordi à 4h du mat autant à partager sur scène en fait, j'avais pas envie. Donc il y en a que j'ai pas mise parce que ça me gonflait, je me suis dit je sais pas, j'avais pas envie de. J'ai plus poussé dans l'autre sens, en fait, étonnamment. Donc, pour retrouver quelque chose qui m'est plus naturel, c'est-à-dire le rock'n'roll. Hein. Ouais, voilà. C'est une sensation de pas écraser les gens avec de la mélancolie. Qu'elle soit là, par petites touches, aux bons endroits.
C'est une mélancolie joyeuse.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça.
Et toujours souriante, et toujours décalée et humaniste. Qu'est-ce qu'on te souhaite ?
Plein de concerts.
Ouais.
Moi, j'ai hâte d'avoir du temps à l'automne pour faire un deuxième album. Et puis, là aussi, je me sens prêt pour faire des collabs, des duos.
D'accord.
Ça s'est fait un peu naturellement. Là, on discutait avec Buridan, avec qui j'ai travaillé.
Bien sûr.
Il y a un morceau qu'on avait fait il y a quelques années ensemble. Déjà un peu sur les débuts de Grand Gamin, même si j'avais pas encore ce nom. Et on va le sortir. Et puis, je rencontre des gens sur la route et on se marre et on se dit, tiens. Et là maintenant, voilà, autant sur le premier album, je tenais à ce qu'il n'y ait absolument personne d'autre parce que j'avais besoin de savoir qui je devenais. Mais là maintenant, je suis prêt.
Bon. En tout cas, c'est une belle aventure. Merci,
merci
Cédric, grand gamin. À bientôt sur nos ondes. On se quitte en écoutant Poussière ?
Allez, let's go.
C'est parti.
La fête. fatigue guette, les hommes en quête d'un demain pur et doux. La colère est vaine, toute vieille, elle coule en veine. Rentrée, l'estomac se noue, l'heure est au flou, le futur est dur et mou. La déroute en route, les mal en rue, on chasse les démons à l'affût. Jamais vu autant de poussière de partout. On voit plus rien, tout est flou, tout descend dessus, dessous. Hors sol, tout seul, flouté, blousé, brisé, cramé. On est niqué, hors sol, tout seul, flouté, blousé, brisé, cramé. On est niqué.
Et deuxième album pour Paradoxan, échappé de Brains et de Bruxelles. C'est dans la Drôme que l'aventure continue pour Antoine Miersman. Écoute et interview par Aurélie de Fréquence Mutine.
Ici Fréquence Mutine, les Brestoises parlent aux auditeurs et auditrices de la Ferrarock. Je suis en interview avec Antoine Miersman pour son projet Paradoxan. Bonjour.
Bonjour.
Alors Paradoxan, ça voit le jour en 2021. À l'époque, c'était ton échappée solo du groupe Brains, où tu étais bassiste. Une très belle aventure musicale qui a pris fin il y a tout pile 2 ans. À l'époque, ça t'a apporté quoi de composer pour toi ?
En fait, je l'ai fait un peu par défaut, par dépit, je sais pas très bien. En fait, on était dans une période où on avait composé déjà un disque, le dernier disque de Brains, et en fait, j'avais pas mal de temps devant moi. Dans les histoires de groupe, il y a toujours des gens qui sont plus disponibles que d'autres. À cette période-là, bah, en fait, les deux autres membres de Brains étaient assez pris dans de la parentalité, d'autres trucs, etc. Et en fait, moi, j'étais un peu là, entre guillemets, à me tourner les pouces, à avoir vraiment envie de faire de la musique. Et j'ai commencé, en fait, j'avais composé beaucoup de trucs pour Brains, et il y avait pas mal de chansons que je me voyais pas trop exploiter dans ce cadre-là. Bah, en fait, plutôt que de les proposer aux autres qui n'étaient pas trop dispo, je me suis dit que j'allais les pousser au plus loin et les sortir en fait sous mon propre nom. C'était pas une volonté, j'avais pas spécialement besoin de m'affranchir du groupe pour faire quelque chose de solo, mais finalement ça m'a aussi apporté d'autres choses et c'est notre expérience de la musique.
Quelle autre expérience de la musique ça t'a apporté, tu penses ?
En fait, ce qui est assez agréable, il y a moins de consensus, c'est plus ce qu'on veut, du coup je pense qu'on peut aussi plus aller vers de la radicalité parce que on n'est pas en train de se poser la question si les autres apprécient ou trouvent ça marrant. Du coup, ça nous ressemble beaucoup. À la fois, il y a quelque chose, en tout cas, je pense que ça dépend vraiment de chaque personne qui fait de la musique. Mais moi, ça me demande beaucoup d'énergie. Je suis assez lent, en fait, à cet exercice. Ce qui explique aussi que je sors pas un album tous les ans. Je trouve ça assez laborieux. Et en fait, il y a un truc super chouette au début, à la fin. Mais le milieu est un peu chiant. Je trouve qu'en groupe, il y a vraiment une énergie quand même qui est super, en fait, aussi, quoi. Le fait de jouer avec d'autres gens, se retrouver dans une pièce, même une fois par semaine, ça a quand même quelque chose d'assez magique. Donc les deux ont leurs avantages, leurs inconvénients. Et moi, en fait, je pense que le meilleur des deux mondes, c'est de faire un peu des deux. Voilà.
Pour ce second album qui est sorti le 2 mai 2025, qui est sobrement intitulé 2, et ben moi, je trouve qu'il est assez différent de ton premier opus. Ici, le son est, à mon sens, plus lumineux et atmosphérique. Est-ce que c'est comme ça que tu l'as composé ou pas du tout ?
Alors, je suis content de te l'entendre dire parce que c'est vrai qu'il y a un peu un truc où j'aime bien les ambiances un peu sombres et tout ça, mais si j'avais vraiment pas envie de faire ça, j'avais quand même envie de faire quelque chose de plus positif et de plus lumineux. J'ai l'impression que le darkness, j'avais déjà assez exploité en musique et que finalement, peut-être c'est la période ou quoi, mais j'ai l'impression que c'est plus sympa aussi d'avoir quelque chose qui fait du bien plutôt que quelque chose de toujours sinistre, entre guillemets. J'avais envie que l'album il soit un peu léché, que ce soit quand même assez produit, que ce soit en même temps assez pop et assez lumineux et joli, entre guillemets. C'est sûr qu'il y a plein de trucs atmosphériques, j'aime beaucoup ça aussi. Finalement, j'écoute beaucoup de musique assez calme quand je suis chez moi. C'était un peu peut-être la résultante de pas mal de choses comme ça qui donnent cette couleur à ce disque-là.
Et tu es multi-instrumentiste. Est-ce que c'est toi qui as fait tout sur l'album ou alors tu as collaboré avec d'autres personnes?
En fait, je fais beaucoup de choses un peu pas très bien. Je suis pas un excellent musicien et j'ai la chance d'être entouré de très bons musiciens. Du coup, j'ai fait refaire des trucs que j'avais déjà fait, mais en mieux. Soit moi, j'ai fait des basses, toutes les basses, des claviers, tout ça. Après, les gens avec qui je joue en live ont aussi fait des choses. Et moi, je place pas beaucoup d'ego là-dedans, au sens où j'aurais pas envie de tout faire moi-même, justement. Je trouve ça chouette aussi que d'autres personnes jouent sur le disque. J'ai aussi fait appel à d'autres personnes, notamment Ben Bertrand, qui est un gars qui fait de l'atmosphérique, qui est un peu le Colin Stetson belge à la clarinette basse. Et alors Ambrose de Sleeper, qui est un super saxophoniste, qui est le copain de notre claviériste. J'ai un peu demandé à pas mal de gens comme ça de participer. Je trouve ça chouette aussi, en fait, qu'il y ait un peu la touche, entre guillemets, de pas mal de personnes sur le disque.
Et oui, puis c'est important de faire confiance aux autres aussi pour avoir une création qui nous corresponde, j'imagine.
Ben, en fait, ce qui est super, c'est que parfois, c'est assez agréable de laisser aussi un peu de la place aux autres personnes. Et puis ça permet de rebondir aussi. Ça permet de faire une sorte de ping-pong qu'on a vraiment en groupe, en fait. Mais quand c'est un projet un peu tout seul derrière l'ordi, en fait, c'est chouette de se retrouver avec d'autres gens qui vont apporter quelque chose. Et puis après, toi, en tant que compositeur, ça te redonne des idées, ça relance un peu la machine. C'est que tout seul, c'est difficile de se surprendre, même si ça arrive. Les autres, ils me surprennent toujours parce qu'ils voient la musique pas du même œil que moi. Ils vont faire des propositions auxquelles j'aurais jamais pensé. Ça, je trouve ça super nourrissant.
Alors, depuis ton premier opus, ta vie a un peu changé puisque tu as quitté la Belgique pour devenir berger dans le Vercors, si je ne me trompe pas.
Alors ça s'est passé en plusieurs temps, parce que j'ai d'abord quitté la Belgique parce que j'avais envie d'une autre vie et enfin d'une autre manière de vivre. Du coup, j'ai bougé au pied du Vercors, dans la Drôme. Et puis ici, j'ai rencontré des bergers et j'ai été rendre visite en saison. Et moi, j'ai eu une espèce d'épiphanie avec ce métier où je trouve ça vraiment super. Je crois que j'avais toujours voulu travailler en montagne et tout ça. Et en fait, un an plus tard, mes copains bergers m'a proposé de monter en saison. Alors je suis monté, alors que j'avais jamais... toucher à une brebis de ma vie, et j'ai vraiment adoré ça. On est beaucoup de bergers artistes, musiciens dans le coin. Un de mes amis bergers qui m'a dit que c'était, selon lui, la meilleure intermittence du monde. Donc, je confirme. On est dehors en saison, à travailler un peu dans un truc un peu plus dehors, un peu plus physique, un peu plus dans du concret, et puis après, on a aussi l'espace le reste de l'année de faire des choses plus abstraites, plus immatérielles comme de la musique, et ça se complète super bien en fait.
Et puis autant le travail peut être un peu rude dans les alpages, mais ça laisse aussi du temps pour la contemplation.
Alors pas tant que ça, c'est un peu une idée reçue je pense sur le métier, enfin je pense que c'est des montagnes où c'est... Moi j'ai pas eu de bol, je tombe toujours sur des montagnes où c'est un peu rude, on a beaucoup de brouillard, beaucoup de prédation, beaucoup de moments durs, mais ça donne à la fois de l'énergie aussi, et ça donne vraiment un autre truc. Et c'est aussi des moments où je pense très peu à la musique, j'en écoute un petit peu, mais en fait, je suis vraiment dans autre chose. Et ça, je pense qu'avoir fait des années d'intermittence, alors je vais pas cracher dessus, c'était super, mais en fait, on est tout le temps focus sur la musique, des trucs de promo, de machin. Et ici, en fait, juste faire autre chose, c'était vraiment ma première saison. Moi, je m'étais plus senti aussi bien depuis des années, de me sentir juste dans quelque chose de concret, à me lever le matin pour faire quelque chose. Garder des bêtes, être un gardien. Et donc, quand je reviens de saison, j'ai de nouveau vraiment envie de faire de la musique et je trouve ça super important de chérir en fait ses passions, de pas tomber dans un truc mécanique où on le fait un peu par habitude, par peur de faire autre chose, quoi. Voilà.
Est-ce que tu penses que justement cette expérience, ça t'a inspiré dans ce nouvel album ?
En fait, oui et non, parce qu'il y avait beaucoup de titres qui étaient déjà composés, et j'ai eu des grosses phases de remise en question. Je disais, ah ouais, en fait, je suis trop lent, ça me prend trop de temps, est-ce que je vais y arriver, etc. En fait, là, en revenant de la saison passée, je disais, ah mais oui, il faut terminer ce truc, il faut le faire et tout, et puis en fait, ça m'a redonné un peu là-dedans.
Pour aller plus loin dans cette idée d'être inspiré donc par ce travail, je me demandais si le fait de fuir la ville pour la montagne, on est d'accord, ça fait quand même une sacrée différence. Est-ce que tu penses que les paysages et les sensations du quotidien, ça forme la sensibilité et de fait, ça peut t'amener en tant qu'artiste à développer des compositions autrement ?
Alors c'est une bonne question, mais je sais pas si j'y verrais directement un lien de cause à effet comme ça. Après, je pense par exemple, c'est sûr que c'est un univers très particulier, le fait d'être en montagne. Moi, j'habite pas vraiment, j'habite au pied d'une montagne, mais quand je suis en saison, c'est un univers assez total, avec des images, enfin, franchement, c'est le plus beau métier du monde après peut-être prof. C'est un truc assez fou, on vit vraiment avec les saisons et on voit des choses quand même exceptionnelles, à la fois autant dans le beau que le très hideux. C'est dégueulasse, quoi, et on est confronté quand même à des choses très très fortes. Et c'est vrai que peut-être je me rends pas compte en fait que ça m'influence, mais je crois que ça a quand même, oui, il y a une petite influence. Moi, c'est vrai que la première fois aussi que j'écrivais en français, il y a pas mal d'images qui me revenaient pendant un peu l'écriture des textes, même si elle est un peu laconique, c'est pas très bavard. Je me rendais compte que d'avoir passé finalement un an complet vraiment en montagne, avec les bêtes, ça m'avait un peu transformé aussi. Ça a changé clairement mon rapport présent et à mon environnement, en fait. C'est indéniable. Et bon, par rapport à la ville, évidemment, c'est super extrême. Mais c'est sûr que, voilà, je pense que plus je vais faire ça, plus ça va me nourrir aussi dans d'autres choses. J'avais peut-être même idée à un moment de faire un projet avec ça. C'est vrai qu'on est en montagne, il y a tout le temps des sonnailles, des brebis qui sonnent. Ça fait des espèces de polyrythmes. On est dans une espèce de musique permanente aussi là-dedans qui est super belle. Et voilà, peut-être que j'en ferai quelque chose aussi.
Tu m'as fait une transition parfaite parce que justement, j'allais y venir au fait que tu chantes en français sur ce deuxième album. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'essayer au français ?
Je pense que ça m'a toujours donné envie. Moi, j'ai toujours bien aimé écrire. Après, c'est assez difficile de parler de soi et de se sentir aussi légitime d'avoir quelque chose à dire. C'est-à-dire, moi, j'ai pas l'impression d'être spécialement passionnant ou d'avoir quelque chose de spécialement pertinent à dire. Les paroles, c'est plutôt illustratif aussi. J'ai pas un énorme propos que je défends. J'arriverai pas à parler, par exemple, de ma vision du monde, de choix politiques ou j'en sais rien. C'est quelque chose que je ne sais pas encore. Parler en français, c'était aussi juste parce que je parle très mal anglais et que j'en avais marre aussi de me cacher derrière quelque chose. In fine, le fait d'écrire dans sa propre langue, c'est aussi incarner un propos et incarner des chansons. Et ces chansons, quelque part, c'est aussi vraiment moi. Il y a certains textes où on a fait ça collégialement avec Romain, où il a proposé un ou deux textes aussi, mais l'idée, c'était vraiment de parler de soi et de dire « bon, ben voilà ». J'ai peut-être pas des choses passionnantes à raconter, mais au moins, je me cache pas derrière une autre langue qui, soi-disant, est plus musicale, parce qu'en fait, le français est très musical. Pour peu qu'on le maîtrise un peu, je pense que les gens se font même pas la réflexion que c'est en français, en fait.
Bah en tout cas, je trouve tes textes plutôt bucoliques, voire même romantiques. Enfin, ils tournent autour de la nature, des éléments, de la solitude à la rêverie et jusqu'à l'angoisse. Pour te citer sur le morceau « Jamais sans personne », l'odeur de l'herbe coupée, le parfum de la rosée, l'enfer de l'autre côté, j'ai du mal à parler. Moi, ça me fait penser, entre autres, aux thèmes qui sont développés par le poète anglais Keats. Est-ce que, justement, la poésie, c'est une source d'inspiration pour toi ?
Avant tout ça, j'ai fait les lettres, en fait. Du coup, j'étais quand même assez passionné de littérature et tout ça. J'ai un peu moins le temps de lire, mais la poésie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après, voilà, moi, j'aime bien jouer sur les mots. Ici, par exemple, sur Jamais sans personne, c'était un peu une blague par rapport au fait que j'ai quitté la ville, j'ai quitté Bruxelles, qui était quand même ma ville natale, où j'ai passé 35 ans, pour autre chose. Et quand je suis parti, j'étais un peu, évidemment, je veux me casser, j'en ai marre, j'ai envie de faire autre chose. Et donc, c'était un peu un clin d'œil à cette période-là. Mais je ne vais pas faire de prosélytisme de la réalité non plus. Pour répondre à ta question, oui, j'aime la poésie. Après, je ne connais pas le poète que tu me cites, ce poète anglais, qui s'appelle comment ?
Keats.
Non, mais je ne le connais pas. C'est vrai que je n'ai pas trop lu. Enfin, je les ai, les naturalistes et les romantiques et tout, je les ai vus quand j'étais à la fac, Mallarmé et compagnie. Mais ça ne m'a pas spécialement... Enfin, j'ai bien aimé, mais c'est pas mon dada non plus.
Jamais sans personne.
Les Abîmes, tu parles de cette envie de s'échapper et tu conclus par revenir à zéro. Est-ce que c'est ce que tu as réussi à faire avec cet album ?
Alors, Les Abîmes, juste un petit mot de là-dessus, c'était vraiment, on a fait le texte avec Romain le batteur, qui a un projet aussi en français qui s'appelle Primeur. Et en fait, on voulait vraiment faire un texte un peu ésotérique, Mylène Farmer. On voulait un peu faire quelque chose de mystérieux, mais qui n'a pas vraiment de sens. Donc, on ne peut pas chercher trop de sens là-dedans. Par contre, ma vision de la musique, c'est vraiment quelque chose... Pour moi, ça doit être de la curiosité, aussi quelque chose de ludique. J'aime bien, en fait, sentir que les choses avancent et ne pas être dans la redite. Donc, en fait, pour moi, chaque album, c'est une nouvelle étape, entre guillemets, une nouvelle mise en danger, même s'il n'y a pas danger de mort. Mais aussi tester de nouvelles choses, quitte à être à côté de la plaque, parfois. Je trouve ça important, en fait. En tout cas, je suis content, au niveau personnel, d'avoir l'impression de faire ce travail-là, quoi.
On va aussi pouvoir découvrir Paradoxan sur scène. Ça va ressembler à quoi ?
Alors sur scène, comme il y a beaucoup de synthé et tout sur le disque, on s'est dit qu'on n'allait pas faire ça, parce qu'en fait, c'est vite un peu la soupe quand on met plein de synthé sur scène. Et donc, on est revenu à nos premiers amours. On est vraiment un groupe de rock. La formule, elle est simple, c'est guitare, basse, batterie, clavier, et on chante tous les quatre. C'est vachement agréable, en fait, parce que j'avais oublié, en me perdant un peu dans le monde des synthétiseurs, à quel point quand on met juste une batterie, une basse, une guitare et un clavier dans une pièce, ça sonne direct, et les gens comprennent le message. C'est vachement plus lisible, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses et pas besoin de se casser trop la tête non plus dans les arrangements. Et les musiciens et musiciennes avec qui je joue sont super, je suis super content de cette formule et j'espère qu'on fera pas mal de concerts.
On peut suivre toutes vos actualités sur vos réseaux sociaux, Paradoxan, et sur Bandcamp également pour retrouver donc les prochains concerts à venir. Et moi j'ai envie de terminer avec une question un peu plus globale mais toujours intéressante. Tu écoutes quoi en ce moment ?
J'écoute un groupe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alice, qui est un groupe, une chorale féminine, fille de Genève, qui est sortie sur Bongo Joe. Et je conseille leur premier disque, qui est super, et je ne connais pas encore bien leur second disque qui vient de sortir, mais je recommande chaudement.
Eh bien, on ira écouter ça avec grand plaisir. Merci beaucoup Antoine Miersman d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que tu es à l'origine du projet Paradoxan, dont le second album intitulé 2 est sorti sur le label Humpty Dumpty Records. Ce bel album est disponible à l'écoute sur toutes les plateformes de streaming, à l'achat sur Bandcamp paradoxan.bandcamp.com et puis évidemment chez vos disquaires habituels. Merci.
Un plaisir. À bientôt.
Evidence, criminal element, send it all down, yeah. Enabled or selling it, battery credit check. We built for collecting it, hunting and gathering, just with a point and click. Scavenging meditative, only fans saving tips. Simply spreading it, same circuit, same crap. Just drop AMs, fuck all the DMs. I roll space stations, erratic communication, savoring all my thumbs. Dodging zeros and ones. Yeah, I'm here this time, but maybe just for once. On the bench this quarter, San Jose for insanity. We be on satire, we be on irony, we be on sci-fi, we be on harmony, we be on story, we be on truth, we be on matter. What matters to you? Matter is hammers, and hammers they hurt, man pulling hammers, and putting in work. You feel what matters when your ass hit the floor.
fallacy, fallacy, fallacy. Corona mama uko. Tragedy, tragedy, tragedy.
Oye me jiki.
Malice, malice, malice be.
Kile mi mama uko.
Calamity.
Oye me jiki.
Fallacy, 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 fallacy.
Iye jiki ya.
Tragedy, tragedy, tragedy.
Iye jiki ya.
Malice, malice, malice be. Calamity. Tragedy. Looking up for this truth. Examine finality. The bullet is real. Stop fucking playing me. You still won't believe me when you die in front of me. Your corpse is as stupid as you be. Fallacy, 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 fallacy. Tragedy, tragedy, tragedy. Malice, malice, malice be. Calamity. Tragedy.
Fabien, tu es accompagné de Aristide. Vous êtes membre du groupe Arad Kilo et vous vous trouvez là actuellement à Toulouse pour quelques balances avant d'entrer sur scène ce soir.
Exactement, on joue à la salle Nougaro à Toulouse ce soir.
Vous avez un album, un nouvel album qu'on entendait avec impatience depuis quelques années désormais, Danama, qui est sorti sur le label Accords Croisés. Peut-être que vous pourriez nous parler de la gestation, de la création de cet album, où on retrouve quelques bonnes habitudes, quelques bonnes connaissances de votre entourage.
Ouais, bah on est reparti pour un tour avec Mike Ladd et Mamani Keita. Parce que voilà, ça marchait tellement bien sur scène et c'est sur l'album d'avant que cette fois, par rapport aux albums précédents, on changeait un peu d'invités par disque. Là, on avait envie de renquiller avec eux. Et par rapport à Vision of Selam qui était sorti en 2018, où là, on était dans un format très organique où on avait enregistré sur bande et vraiment de manière très vraiment live. Là, on a fait un autre processus. On a voulu moderniser notre son un petit peu. Et on a plutôt chacun a amené des morceaux. On a fait un peu des cadavriski et des cadavriski où chacun a amené des idées. On s'est changé les sessions, on se fait des sessions tous ensemble, mais finalement à maqueter les morceaux ensemble plus que répéter. Donc voilà, on a voulu faire un album un peu plus, un vrai album studio en fait, pour pouvoir s'autoriser à des moments d'avoir plein de trompettes sur un morceau ou que du clavier et des vents, un autre morceau avec plein de guitares, des Ngoni, des Quattro, des ukulélés. Enfin voilà, de s'autoriser et aussi plus de production aussi quoi, en termes de synthé ou même de son, de prod, de batterie, etc. quoi.
Parlons production, parlons passage en studio justement, parce que ce qui saute aux oreilles à l'écoute de Danama, c'est une nouvelle approche du studio. C'est quelque chose que vous avez pris plaisir à faire. Vous êtes-vous entouré de nouveaux ingénieurs du son pour avoir cette nouvelle approche du studio?
Oui, alors au départ, les deux précédents albums, on les avait fait avec Frédéric Soulard, qu'on adore, mais qui n'était pas dispo pour cet album, parce qu'il est très pris. Et du coup, on s'est posé d'autres questions et on a bossé avec les gens de One Two Pass It, avec Laurent de Bois-Gisson à One Two Pass It Paris, enfin à Montreuil, Bagnolet d'ailleurs précisément. Chez qui on a enregistré batterie percu. Le reste des enregistrements, on les a fait en grande partie dans le studio de notre bassiste qui réalise du podcast aussi et du coup qui a un studio d'enregistrement. Et donc on a fait les ingé-sons, parce qu'on est quelques-uns à produire aussi. Donc en fait après on a enregistré batterie percu donc dans un gros studio, parce que ça pour batterie percu c'est quand même un peu plus délicat. Et ensuite on a enregistré par duo. Basse guitare, puis trompette sax, puis les claviers et en dernier les voix. Et en fait, on avait pour tous les morceaux, on avait des maquettes. Enfin, on avait maquetté les bonnes structures. Donc en fait, on remplaçait les instruments au fur et à mesure. Donc ce qui était un processus vraiment très différent de ce qu'on avait pu faire jusqu'ici.
Ce que ça donne en live, c'est justement le fait que la famille se soit agrandie. Alors bien sûr, il y a les connaissances anciennes, quelques Mamani Keita ou alors Mike Live.
On est déjà nombreux, ce qui est plus trop dans l'air du temps d'être 8 sur scène. Non, on est les mêmes 8 que sur les deux albums précédents, donc basse, batterie, guitare, Aristide qui fait clavier, trompette, Michael qui fait sax baryton, sax alto et flûte. Gérald aux percussions et Mike et Mamani. Donc on est déjà 8 sur scène, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà compliqué à faire tourner.
Si je suis attentif à votre musique depuis longtemps, c'est parce que vous avez une approche des musiques éthio. Alors on dit éthio jazz, mais en fait pour vous ça va bien au-delà de cela, c'est d'inspiration éthiopienne, mais pas que, c'était déjà le cas dans Vision of Salam, vous aviez pris un peu de distance en pliant la carte de l'Afrique en plusieurs parties. Ça se confirme dans Danama, où les inspirations sont multiples.
Oui, c'est ça. Déjà, le fait de faire rencontrer Mamani avec l'Éthiopie, c'était déjà réunir Afrique de l'Est et Afrique de l'Ouest. Donc, c'était déjà un pari qui est hyper naturel, quoi. Et là, c'est vrai qu'on va, comme dans le précédent, on va tirer dans d'autres pays d'Afrique. On aime beaucoup la musique congolaise, donc on tire un peu là-dessus à des moments. Et puis après, il y a aussi toutes nos influences hip-hop et musique actuelle en général, quoi, qui mélange avec ce terreau des gammes éthiopiennes, quoi. It's always been there. It's never hidden like the Pope went on parade. Display of riches, display of power. But riches and power are a fragile state. Urban II, straight to Richard. Edward the Long Shanks and Oliver's hate. Borrow to murder, then kill the lender. All the pogroms that paid for the crusades, let alone intimate animosity of neighbors and cousins that leads to atrocities all throughout history. It don't occur naturally. It's sick and slick. Did I mention the Pope? Did I mention the King? Did I mention the East India Company? Did I mention the opium? Did I mention the tea? Right, let's not forget 500 years of slavery. Did I mention the stock price? Did I mention the oil? Did I mention my phone, my car, my home, and all of the batteries? From Switzerland to non-Zion. The power adjacent been banking on, hugging the devil and hanging on. Yeah, invest in the devil and see what could go wrong. Oh dear, capital pawns, most radical wrongs. Been beat and the beaten beat others. American bombs, colonies falling, the emperor's gone.
Vous avez des choses à raconter, vous avez des choses à dire. C'est une des particularités de votre approche des musiques africaines, éthio. Cette approche à vous, en fait, elle se fait avec le recours aux paroles, aux verbes. Vous avez des choses à raconter et ça se confirme dans Danama. Vous aviez des thématiques, des choses que vous aviez vraiment envie d'exposer et de mettre en valeur dans les thèmes qui vous sont chers.
Là, pour ce qui est des paroles, c'est quand même, on discute beaucoup avec nos chanteurs et puis avec la route, on a l'occasion de parler politique, donc on a le temps d'échanger sur des sujets, mais là on laisse quand même les chanteurs libres d'écrire ce qu'ils ont envie d'écrire, même si quand on arrive avec une compo, on peut donner des idées sur qu'est-ce que ça nous évoque.
Généralement, c'est Mamani qui trouve une mélodie qui impose le thème un peu. Et après, elle voit avec Mike Mike, il essaie de s'adapter un peu à ce qu'elle propose et en fonction de la petite, du petit thème de départ qu'elle met, lui, il part dans une direction, ça l'aide à écrire.
Mike avait pas mal de thématiques politiques qu'il avait envie de placer. Il était pas mal sur la religion là sur cet album-là. Il a tapé fort sur le christianisme. Et puis après, il y a un morceau aussi sur Naël, sur le jeune qui s'était fait assassiner par les forces de l'ordre lors d'un contrôle policier. Donc oui, il y avait aussi toutes ces thématiques qu'ils avaient envie d'utiliser dans leur texte, quoi.
Prestation live, qu'est-ce qui s'annonce pour les prochaines dates? J'ai vu une date annoncée, enfin une date programmée récemment à Banlieue Bleue, ce fameux festival. D'autres choses palpitantes se dessinent pour vous?
Oui, alors qu'est-ce qu'on a? On rejoue en Ile-de-France, à Saint-Ouen le 23 mai. On a surtout à noter à Paris, on joue le 3 octobre au Cabaret Sauvage. Ce sera une grosse date parisienne parce que justement, Banlieue Bleue, là, c'était vite plein. Donc, pour avoir une belle date pour le public parisien. On a le 28 juin au Festival Django Reinhardt. Et on est en Bretagne le 26 juillet, je crois. Ouais. 26 juillet, alors je vais pas énerver les Bretons en prononçant mal le...
C'est à côté de Lannion.
Ouais, voilà, à côté de Lannion. C'est au festival Chaussetong. Il y a une très belle prog, ça a l'air d'être très chouette. Et après, il y a d'autres dates en tractation, et puis il y en a d'autres encore en option sur l'été, mais qui ne sont pas encore confirmées, donc je ne peux pas encore dire.
Très bien. Eh bien, écoutez, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez sur le bout de la langue et que vous souhaitez partager avec les auditeurs de RCV et des radios de la Ferra Rock?
Non, bah alors on peut leur dire que même s'ils ont aimé l'album, faut pas hésiter à quand même venir nous voir en live parce qu'on sait, comme c'est justement un album studio, c'était un petit défi de l'adapter en live. Donc on a fait aussi pas mal d'arrangements pour adapter le répertoire en live. Donc, évidemment qu'on garde la teneur des morceaux, mais on ajoute pas mal de petites parties. On a essayé d'adapter les morceaux à un format live pour que ça soit vraiment à notre image et dansant et qu'on puisse délivrer une bonne dose d'énergie. Donc c'est chouette de venir nous voir en live aussi, quoi. Même si on aime l'album, quoi.
Eh bien, on espère toutes et tous vous retrouver sur les planches très très bientôt. Merci beaucoup pour cette conversation et puis bon concert.
Bah ouais, merci au Ferra Rock. Et on sait qu'on est soutenu depuis longtemps aussi. Voilà, merci.
Avec plaisir.
C'était Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferra Rock. À l'instant, l'interview de Fabien Girard, membre d'Arad Kilo, pour la sortie du disque Danama, paru sur le label Accord Croisé. À découvrir également en live et notamment en Bretagne au festival Chaussetong. Les deux albums soutenus par les radios de la Ferra Rock cette semaine vous étaient présentés par Aurélie de Fréquence Mutine et Marie de Sol FM. Il s'agit de Deux par Paradoxan, sorti le 30 avril sur le label belge Humpty Dumpty Records, ainsi que Tout est flou par Grand Gamin, disponible depuis le 25 avril via Danaya. Pour écouter cette émission et en savoir plus sur les albums soutenus, rendez-vous sur www.ferrarock.org.